Donc elle est pas pour le travail. Et dans quel à quel moment tu la portes et elle est comment cette jupe?
Alors elle est en laine noire. J'ai voulu la prendre noire là pour avoir quelque chose de plutôt sobre et de portable avec indifféremment quel que soit le reste de la tenue que je peux avoir. Et l'idée c'était aussi, comme je trouvais ça agréable de porter la jupe dans mon cadre professionnel, je me suis dit que ça serait aussi agréable de la porter dans mon cadre privé. Alors j'ai souvent tendance à être habillé en tenue de travail du lundi au vendredi, enfin du lundi au dimanche pour le coup, quasiment tout le temps en tenue de travail, mais ça m'arrive de sortir un peu autrement et voilà, ma compagne me dit que peut-être c'est bien d'être avec une autre tenue que celle de travail. Donc voilà, j'ai voulu avoir une tenue civile en kilt. Bah, elle dispose pas de poche non plus, alors là c'est un peu plus dérangeant pour moi. Donc je suis en train de chercher l'accessoire là qui est porté pour pouvoir mettre mes clés, mon téléphone, mes papiers.
La première fois que tu as porté ton kilt de travail déjà, comment ça a été perçu?
Alors ça a été, je pense, un étonnement pour une partie des personnes que je pouvais croiser. Il y avait peut-être aussi une inversion des regards du côté féminin, avec notamment des femmes ou jeunes femmes ou moins jeunes qui portaient un petit sourire en coin en voyant. Surtout comme je me balade à vélo, certaines pouvaient attendre le moment où je dois descendre de mon vélo ou enjamber mon vélo pour monter, pour vérifier peut-être s'il était porté à la méthode traditionnelle. Donc voilà, ça c'est un petit côté qui peut être marrant. Et puis ben, comme le kilt est ouvert quand même sur le côté à l'avant, et ben, souvent je peux avoir, et quand je pédale, j'ai la fente du kilt qui remonte assez haut, et donc voilà, ça laisse la jambe apparente très haute. Donc voilà, il peut y avoir, à la manière peut-être des hommes qui regardent les femmes qui portent la jupe, l'inverse là pour le coup, et les femmes qui regardent un homme qui porte une jupe et pour voir les cuisses. C'est plutôt sympathique, hein. En tout cas, moi, ça me pose pas le problème, je pense, que peuvent ressentir les femmes quand elles sont regardées parce qu'elles portent une jupe, quoi.
Est-ce que tu as eu des retours, des questions ou des curiosités de la part d'autres hommes?
Dans le cadre de l'entreprise, j'ai un de mes coéquipiers qui s'est questionné et pour lequel j'ai acheté en tant que vêtement de travail aussi un kilt et qui porte lui aussi assez régulièrement dans l'entreprise. Pareil pour une histoire de praticité et de confort. Et d'autres qui voilà, sont encore en questionnement, qui seraient amenés à pouvoir le porter, qui aimeraient peut-être pouvoir le porter. Et pour certains d'entre eux, voilà, aujourd'hui, qui disent j'arrive pas à assumer le fait de porter un kilt au travail, quoi.
D'après toi, qu'est-ce que les hommes qui aimeraient porter des jupes mais ne franchissent pas le pas de le faire? Qu'est-ce
Ben, je pense que
qui...
c'est une histoire peut-être liée à la virilité. Voilà, un homme, ben oui, en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt en pantalon, c'est pas en jupe, c'est le côté peut-être, entre guillemets, je sais pas, faible, sensible. Comme en plus, nous, on évolue dans un milieu qui est quand même plutôt masculin et viriliste dans le milieu du bâtiment, parce que voilà, c'est plutôt porter des charges lourdes, voilà, dur au mal, résistant, ce qui d'ailleurs est complètement faussé par rapport à plein d'autres choses, et la féminité, mais voilà, c'est peut-être une difficulté à assumer ça en public, quoi.
Quand tu portes ta jupe dans la vie privée, est-ce que tu vois une différence entre un kilt de travail, donc où il y a plein de poches, comme pour un pantalon, donc on voit bien aussi que c'est pour le travail, que tu utilises dans le cadre du travail, et là, tu as acheté une jupe qui est en laine, qui est noire, qui n'a pas de poche, donc qui ressemble plus à une jupe que peuvent porter les femmes. Comment ça a été reçu?
Alors je ne l'ai pas encore porté beaucoup, puisque du coup je suis encore beaucoup avec mon kilt. Mais il y a, oui, je perçois un changement dans le regard, plutôt du côté masculin, auquel je prête peut-être plus attention. Et ouais, une interrogation plus profonde sur le fait de porter une jupe, là, qui semble oui, plus commune, ou voire une jupe de femme qui serait portée par un homme, quoi. Quand bien même, bon, les mœurs évoluent lentement, mais un petit peu, on en voit peut-être un peu plus malgré tout aujourd'hui. Donc c'est peut-être plus dans l'occasion de soirée où bah là voilà ça passe plus facilement, mais dans la vie de tous les jours je sens une différence de perception en tout cas par rapport à quand je porte mon kilt de travail et la jupe.
Est-ce que toi tu vois à Morlaix ou dans les environs d'autres hommes, d'autres jeunes hommes qui portent aussi la jupe ou le kilt?
Alors j'en ai pas vu sur Morlaix même directement. Je sais qu'il y a apparemment un charpentier qui vit sur son bateau au port de Morlaix qui porte aussi le kilt. Mais j'ai eu l'occasion d'être invité à un bal folk chez une copine en festival un peu privé. Et là j'ai eu l'occasion de rencontrer, enfin de loin, mais des jeunes hommes entre 25 et 30 ans. Il y en avait au moins deux qui portaient des jupes, et vraiment là, même des jupes de femmes, je dirais, pas forcément un kilt, quoi, parce que c'était des tissus assez légers et fleuris, donc avec des chaussures et des chaussettes. Mais en tout cas, c'était pas des kilts, quoi. C'était pas le côté encore masculin ou viril du kilt qu'il portait, et vraiment des jupes de femmes assez longues, enfin, entre la cheville et mi-mollet, quoi. Donc c'est quand même aussi plus long que le kilt.
Qu'est-ce que tu dirais aux garçons, aux adolescents, aux hommes qui auraient envie de porter des jupes mais qui n'osent pas?
D'essayer. Essayer, voilà, enfin, c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de faire fi justement du regard des autres et du jugement qu'il peut y avoir au travers du regard des autres. Et moi, c'est quelque chose auquel je fais pas spécifiquement attention aujourd'hui, quoi. J'ai jamais trop fait attention, même si ça a pu me poser des difficultés quand j'étais plus jeune, justement. Bon, j'ai porté la boucle d'oreille très tôt. Parce que mon père me l'avait quelque part imposé ou influé. À 9 ans, j'avais déjà une boucle d'oreille, donc je sais que ça avait été difficile d'arriver à l'école avec une boucle d'oreille, parce que c'était dans les années 80, donc voilà, c'était pas courant. Plus voilà, les traits assez fins que j'avais et les questionnements, est-ce que t'es un garçon, est-ce que t'es une fille, plus la boucle d'oreille, donc voilà, ça... Donc je me suis sans doute peut-être forgé une habitude par rapport à ça, et aujourd'hui ça me pose moins de problèmes de me retrouver vestimentairement décalé. Je fais fi de ça, mais je peux concevoir que oui, le regard des autres est sans doute toujours difficile à recevoir et à accepter, quoi. Mais une fois qu'on l'a essayé, c'est l'adopter, quoi, je dirais.
Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à Bretonnes et Féministes sur n'importe quelle plateforme de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours pour une visite guidée féministe de la ville de Rennes.
Nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ça nous sort de l'espèce de monopole des héros de tout genre, masculins et virils et tout ce qu'on veut. Et puis ça nous permet aussi de rendre hommage à ces femmes et puis d'ancrer aussi dans l'imaginaire ou dans la représentation du monde autre chose, une alternative. Et par ailleurs, je pense que ça nous enseigne énormément de choses sur la vie, les rapports sociaux, la politique. Enfin, moi en tout cas, ça me fait ça. C'est-à-dire que les recherches qu'on fait, les transmissions qu'on fait, les discussions qu'on a, moi, ça m'enrichit, ça me permet d'enrichir les autres. Voilà, parce que moi, il y a encore quelques années, Louise Baudin, je ne savais pas qui c'était.
Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
Aujourd'hui, pour ce 57e épisode, nous parlons matrimoine breton sur les traces de Louise Baudin, militante féministe rennaise des années 1900. Mon podcast explore les féminismes contemporains en Bretagne, mais il veut aussi archiver ce matrimoine régional historique, militant, scientifique et culturel. Là, je suis donc allée à la rencontre de l'association Histoire du féminisme à Rennes, qui veut, elle aussi, diffuser l'histoire locale des luttes pour les droits des femmes. Cette association féministe organise des conférences, intervient en milieu scolaire, publie des travaux universitaires et réalise donc des visites guidées féministes dans la ville. Il y a par exemple des déambulations sur l'histoire à Rennes du planning familial, du mouvement pour la liberté d'avortement et de la contraception, le MLAC, et donc sur des figures du féminisme local. J'ai donc assisté fin septembre à une déambulation sur l'histoire de Louise Baudin. C'est une pacifiste engagée, féministe, journaliste et militante communiste qui a lutté au début des années 1900 pour l'égalité et la dignité des femmes. Cette déambulation suit en particulier la biographie de Louise Baudin, la bolchevique aux bijoux, qui a été écrite par l'universitaire rennaise Colette Cognier et publiée en 1980. Et sans ce livre, en fait, l'histoire de Louise Baudin serait vraisemblablement tombée dans l'oubli. Alors là, on est à Rennes, sur la passerelle qu'on appelle la passerelle Saint-Germain, qui est en face de l'église Saint-Germain. Et c'est là que je retrouve les femmes de l'association Histoire du féminisme à Rennes. On va faire un petit tour de micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune rapidement ?
Moi, je suis Patricia Godard, donc cofondatrice avec Lydie Poré de Histoire du féminisme à Rennes. C'est parti d'un sujet de recherche. Et on a créé l'association avant la sortie du livre Les femmes s'en vont en lutte pour faire connaître au grand public les résultats de nos recherches. Et puis, de fil en aiguille, on s'est intéressé à d'autres époques, à d'autres sujets. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait cette visite Louise Baudin. Voilà une figure rennaise incontournable qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui.
Moi, je m'appelle Françoise Bagnot. Moi, je suis très intéressée par la transmission des luttes, des mémoires, des luttes et des histoires des femmes très vite radiées de l'histoire.
Guylaine Ménage, je suis co-trésorière de l'association Histoire du féminisme à Rennes. Et donc, je suis dans l'association depuis le début. J'ai connu Lydie et Patricia qui faisaient donc des recherches sur le féminisme dans les années 70. Et à cette époque-là, donc, je travaillais et je vivais à Rennes. Et donc, j'ai eu des entretiens avec elles. Elles ont utilisé des archives que j'avais conservé de l'époque, que ce soit de la commission femmes CFDT, que ce soit des luttes qu'on avait menées à Mamoute, archives que j'ai remises donc aux archives municipales de Rennes.
Alors Josiane Pérez, moi je suis une simple membre, je participe de temps en temps.
Christine Couvert, moi j'ai été recrutée par André Hélard et Patricia Godard à l'occasion de l'écriture du livre sur Colette Cosnier en tant que ancienne étudiante, et j'avais un témoignage à apporter, puis me voilà embarquée dans l'aventure.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'une d'entre vous peut nous expliquer, qui est Louise Baudin ?
Louise Baudin, en fait, c'est une journaliste, une écrivaine, une pacifiste, une communiste trotskiste vers la fin de ses jours. C'est une femme engagée qui a rendu visible toute une partie de la vie des femmes qui faisaient la lessive, des femmes ouvrières, et qui a aussi mis en cause ce qu'on peut appeler aujourd'hui la domination patriarcale. À l'époque, ce n'était pas forcément les mêmes mots, mais voilà.
Et donc, Colette Cosnier a écrit Louise Baudin, la bolchevique aux bijoux. Et son surnom, c'est le fait que c'était une grande bourgeoise rennaise, quand même, qui était femme d'un grand médecin, qui a rejoint les causes féministes et gauchistes, d'où le nom, la bolchevique aux bijoux.
Comment s'est venue cette idée-là d'organiser des visites guidées de Rennes sous ce prisme-là de militante féministe?
On voulait partager avec le grand public l'histoire rennaise des luttes féministes. Et la visite guidée, en fait, ça permet de sortir du format conférence, d'une certaine verticalité, et de partager vraiment physiquement un moment, et puis aussi s'inscrire dans les murs de la ville.
Parce qu'on va quand même dans les lieux. Par exemple, pour la visite donc Histoire du féminisme, ça commence au planning familial, enfin là où il y avait le planning familial dans les années 70. Pareil pour le MLAC, on va aussi dans une petite impasse rue Saint-Michel pour avoir la clé, pour dire là le local choisir était là.
Ce qui est intéressant aussi, enfin c'est ça qu'on promeut nous, parce qu'on pourrait imaginer mettre ça à disposition avec des casques et que chacune et chacun fasse la visite. Voilà. Nous, ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est qu'il y ait des échanges entre les personnes qui viennent sur ce qu'on raconte, ce qu'on a travaillé et cherché, ce qu'on raconte pendant la déambulation, mais aussi après. Souvent après, les gens qui peuvent restent et on prend une collation ensemble, offerte par l'association. Et ça permet de discuter de ce qu'on explique du passé, donc de la mémoire, mais de faire le lien aussi, parce qu'il y en a, avec l'actualité d'aujourd'hui. Et donc, c'est, pour nous, c'est toujours un enrichissement. Et pour les personnes qui participent aux déambulations, c'est aussi l'occasion de raconter leur propre vécu, mais aussi de partager des expériences qu'on peut appeler parfois expériences militantes, collectives, de lutte, quoi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les figures qui ont contribué à l'émancipation des femmes, comme disait Guylaine, que ce soit sur le droit à disposer de leur corps, de nos corps plutôt, contraception, IVG, tout ça, mais plus largement pour aller vers l'égalité femmes-hommes et sortir les femmes de l'oubli, quoi.
Oui, parce que en fait, si vous n'organisiez pas ces visites-là, on n'en saurait pas forcément beaucoup plus sur toutes ces femmes-là militantes, engagées, qui en fait sont quand même invisibilisées de l'histoire rennaise.
Il y a quand même maintenant des noms de rue ou des noms de crèches. Par exemple, Louise Baudin, il y a une crèche qui s'appelle Louise Baudin, il y a un pavillon au centre hospitalier qui s'appelle Louise Baudin. Ça ne veut pas dire que les gens sachent qui c'est.
À Rennes aussi, il y a une compagnie. En fait, ce matin, avec Christine, on était à la représentation de celle d'En Dessous, la compagnie La Mort est dans la boîte, qui va dans des cimetières principalement pour raconter la vie de femmes connues mais aussi inconnues. Et donc elles font un travail vraiment remarquable. C'est leur fond vieille, la metteuse en scène, et c'est vraiment du beau travail de matrimoine aussi.
En fait, ce qui est parfois un petit peu compliqué, c'est que nous, on est plutôt tourné, on pourrait dire, vers le passé, puisqu'on veut réactiver la mémoire, on veut la transmettre, on veut la faire exister. Alors parfois, ça s'éloigne un peu des luttes féministes au sens premier du terme, parce que c'est vrai que ce n'est pas des luttes pour le droit à l'IVG, etc. Mais en fait, ça les rejoint, parce qu'à chaque fois, ce sont des femmes qui ont contribué à la visibilité de ces combats-là.
Pourquoi c'est important justement de visibiliser ces femmes-là, ces personnes qui ont fabriqué l'histoire aussi ?
Ça nous sort de l'espèce de monopole des héros de tout genre, masculins et virils et tout ce qu'on veut. Et puis ça nous permet aussi de rendre hommage à ces femmes et puis d'ancrer aussi dans l'imaginaire ou dans la représentation du monde autre chose, une alternative. Et par ailleurs, je pense que ça nous enseigne énormément de choses sur la vie, les rapports sociaux, la politique. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. C'est-à-dire que les recherches qu'on fait, les transmissions qu'on fait, les discussions qu'on a, moi, ça m'enrichit, ça me permet d'enrichir les autres. Voilà, parce que moi, il y a encore quelques années, Louise Baudin, je ne savais pas qui c'était.
Et puis aussi de dire, enfin c'était le livre justement écrit par Patricia Alidi, que tout s'est pas passé à Paris. Il s'est passé beaucoup de choses à Paris, qu'il y a des femmes qui sont célèbres aussi à Paris, mais qu'à Rennes, il s'est passé des choses, que ce soit dans les années 70-80 ou avant, comme Louise Baudin qui a vécu quand même longtemps à Rennes.
Moi, ce qui m'a intéressée en premier lieu, mon premier objectif, c'était, avec Lydie, quand on a écrit le livre sur les luttes des années 70, c'était faire le lien entre générations et montrer la continuité, comme disaient les camarades. Et en fait, ça, c'est vraiment une réussite de notre association. Bah, au sein du bureau, là, on est plusieurs générations de militantes. Quand j'ai commencé à militer au début des années 2000, je ne connaissais pas les militantes qui avaient milité juste avant nous. Et ça c'est formidable, quoi, de tisser cette continuité. En fait, il y a... Voilà,
ce que j'entends dans cette période de la vie, c'est que...
Alors là, tout le monde s'est rassemblé sur la passerelle. Il y a une vingtaine de personnes qui s'est inscrite, principalement des femmes de tous âges, dont deux jeunes d'une vingtaine d'années. Pourquoi vous avez eu envie de venir ?
On a appris que cette invitation était là parce que on fait partie d'un groupe d'une orga féministe aussi qui s'appelle Nouvelle Reine. Donc on a été mis en contact. C'est toujours intéressant de découvrir des profils de femmes féministes activistes qu'on ne connaît pas du tout et en plus qui nous touchent. Enfin, vu qu'on est furennaise, c'est intéressant voilà, d'en savoir un peu plus quoi, sur la ville et sur les gens qui y habitent, qui habitaient.
Parce que pour vous, c'est important aussi de visibiliser ces histoires-là de femmes militantes au niveau local. Comme une des membres du bureau de l'association expliquait, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais évidemment, oui. Il y a plein de choses qui se passent ailleurs aussi. Oui. Est-ce que c'est important aussi pour vous de connaître ces histoires-là ?
Bah oui, c'est super important parce qu'on, dans la tête de la plupart des personnes, quand on parle d'activisme, c'est surtout des hommes déjà. Donc de mettre en avant des femmes militantes et tout, c'est super important. Et oui, comme vous dites, que c'est à Rennes que ça se passe. Et on va déambuler, on va avoir des rues, des endroits précis où maintenant ce sera lié dans notre tête à un féminisme rennais. Du coup, c'est super chouette.
Voilà, ça y est, la déambulation va commencer. On reste sur la passerelle Saint-Germain pour cette première étape. Et chacune leur tour, les membres de l'association racontent en fait l'histoire de Louise Baudin. Je vous laisse écouter un passage.
Une femme Louise Baudin. Parce que jusqu'à présent, nos recherches nous avaient plutôt amené à étudier ce qu'on a appelé le féminisme de la deuxième vague, c'est-à-dire les mobilisations féministes qui débutent dans les années 60-70 et qui, avec comme revendication principale, la libération des femmes, particulièrement dans la sphère privée, c'est-à-dire la sexualité, la contraception, l'avortement. Mais sur le féminisme de la première vague, celui de la fin 19e et début 20e, qui revendique des droits politiques, finalement, nous disposons de très peu de données locales. Louise Baudin a vécu à cette période, 1877-1929. Elle a milité à cette période. Ses écrits et ses prises de position, révélés notamment par Colette Cosnier, nous ouvrent un nouveau pan de recherche. En fait, son histoire nous a intéressés et nous intéresse toujours parce qu'elle illustre les enjeux qui restent d'actualité quand on se penche sur l'engagement des femmes. Comment mener de front une vie de famille et des engagements publics épuisants? Comment concilier son féminisme et ses autres convictions politiques? Comment dépasser la crainte de ne pas être légitime pour défendre telle ou telle cause? Et comment ne pas se laisser déborder par des sentiments d'injustice ou d'impuissance?
Bâti sur les quais, un escalier descendait à un lavoir. Dès l'aube, dès 5 heures, j'entendais le battoir des laveuses. Femmes du peuple qui venaient laver le linge de l'homme et des gosses avant le jour, pour ne rien perdre de leurs heures de travail. Certaines d'entre elles étaient enceintes. Les coups de battoir retentissaient dans mon cœur comme un reproche, comme un remords douloureux, comme une honte, tandis que j'avais la possibilité, les loisirs de me prélasser dans mon lit pour me reposer des fatigues que je n'avais pas eues.
Cette culpabilité d'être bien née, d'avoir eu accès à l'éducation et de vivre une vie confortable, Louise Baudin la portera toute sa vie. Et pourtant, elle ne s'est pas contentée de suivre le chemin qui lui était tracé par son milieu et par l'époque, celui d'une vie domestique et bourgeoise. À partir de 1912, elle prend publiquement des positions féministes dans les textes qu'elle écrit. Les textes en question sont d'abord des critiques littéraires, publiées dans les Nouvelles Rennaises, un hebdomadaire républicain dont les locaux se trouvaient tout près d'ici. Et à ses débuts de journaliste, elle signe alors LB. Mais ses lecteurs et lectrices devinent probablement très vite qu'une femme se cache derrière ses initiales. En effet, dans l'une de ses premières chroniques, elle s'en prend à un critique littéraire particulièrement misogyne et livre un plaidoyer pour le droit des femmes à l'écriture. Son style, vif et ironique, laisse déjà entrevoir les prises de position beaucoup plus radicales qu'elle défendra plus tard dans sa vie. Pour l'heure, elle écrit sur les lycées de filles, sur la Bretagne, sur Marion Dufaouette, sur les suffragistes. Comme les féministes réformistes de son époque, Louise Baudin est en effet favorable au droit de vote des femmes. En 1913, quand un groupe local de l'Union française pour le suffrage des femmes voit le jour à Rennes, elle fait partie des premières membres. Elle devient présidente de ce groupe l'année suivante. À la même période, encouragée par ses amis, elle publie « Les Petites Provinciales », un recueil de lettres qui font la chronique de la vie rennaise. On pourrait tenter d'y voir une activité mondaine ou anecdotique. En fait, ce n'est pas du tout le cas. En ce début de XXe siècle, l'écriture est un acte transgressif pour les femmes. Colette Cognier l'a brillamment démontré dans son essai qui s'appelle « Le silence des filles ». Quand une femme prend la plume, elle est forcément suspecte. Et Louise Baudin le rappellera dans un très beau texte, rédigé plusieurs années après son passage à l'écriture.
Alors là, on va au lycée Émile Zola, qu'on appelait le lycée de Rennes.
Là, c'est une des étapes de la déambulation.
Voilà, c'est la deuxième étape de la déambulation. Et pour parler donc d'un des combats de Louise Baudin, qui était le pacifisme dans un contexte vraiment compliqué quand on était pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, parce que là, il y a eu vraiment... Enfin, toutes les féministes se sont mobilisées pour l'effort national, etc. Enfin, tous les combats féministes sont passés à l'arrière-plan, en fait. C'est aussi son féminisme qui la rend pacifiste.
Est-ce que c'est simple, à chaque fois que vous faites des déambulations comme ça, de trouver des lieux où les... où les personnes ont vécu ou qui est des lieux qui ont du sens pour ces personnes-là?
Là, on s'est beaucoup appuyé sur La Bolchevique aux bijoux, donc le livre de Colette Cogné. Et c'est un livre vraiment qui s'inscrit dans la ville. En fait, c'était un des combats de Colette Cogné aussi, d'inscrire les femmes dans un paysage, dans une géographie. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur son livre, et qui décrit vraiment la ville, l'ambiance, etc. Donc non, en tout cas pour cette visite, c'était très simple en fait, tout nous était donné quelque part.
Donc nous avons quitté Louise Baudin au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc cette Première Guerre mondiale éclate alors que Louise Baudin a amorcé sa sortie de son carcan d'épouse et de mère au foyer grâce à l'écriture. La guerre éclate aussi alors que sur un plan plus général, les mobilisations suffragistes semblent sur le point d'aboutir. La nouvelle chambre élue en mai a repris le projet Buisson, favorable au vote des femmes aux élections municipales. Ça aurait été déjà un premier pas. Une grande manifestation suffragiste a lieu le 5 juillet 1914, donc tous les espoirs semblent permis. Mais dans les deux cas, la guerre va donner un coup d'arrêt. La politique d'union sacrée ne laisse absolument aucune place à l'expression du féminisme. Les féministes françaises se rallient sans hésiter à cette union sacrée. Toutes les épouses, les filles, les sœurs, les mères de soldats sont engagées à faire leur devoir. Aucune manifestation féministe contre la guerre n'est donc envisageable. Les propos de la présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes donnent le ton.
Toute femme qui, à l'heure présente, ébranlerait chez l'homme le sens du devoir envers la patrie serait une criminelle.
Les répercussions de la guerre sur la vie de Louise Baudin sont absolument immédiates. Son mari part dès le 28 août 1914 en tant que médecin aux armées. Et dès que les premiers blessés arrivent au lycée, transformés en hôpital, elle devient infirmière-major. Et même si un mouvement international des femmes contre la guerre se crée bientôt, dès 1915, avec l'appel aux femmes socialistes par Clara Zetkin et Rosa Luxembourg, le congrès des femmes pour la paix en 1915, on ne sait pas si Louise Baudin en a connaissance. Et de toute façon, l'écho de ces initiatives pacifistes reste limité. Il faut attendre 1917 pour que les choses bougent et que les voix de féministes pacifistes se fassent entendre.
Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble,
je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir en ligne les prochaines dates des événements organisés par Histoire du Féminisme à Rennes. On n'oublie pas non plus que Bretonne et Féministe est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et qu'il vous suffit de vous abonner. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un entretien avec Sylvie Longuet, militante féministe pour les droits des mères précaires et isolées.
Where your work's at. Thérèse, il y a des années où les pommiers n'ont pas de pommes. J'écris pour que vous le sachiez, la récolte n'est pas trop bonne. Depuis longtemps vous m'écrivez sans que bien souvent je réponde. La chaleur de votre amitié m'a bien souvent rendue au monde. Trop peu de pommes aux pommiers. Me gardez-vous votre amitié, me gardez-vous votre amitié. Le chagrin que j'ai cette fois, savez-vous, tellement me pèse. Pour que vous me rendiez la foi, c'est à vous que j'écris Thérèse. Cette année, je n'ai pas fleuri aussi peu que j'en porte trace. Que j'en ai les branches meurtries, que de partout mon bois se casse. Trop peu de pommes aux pommiers. Me gardez-vous votre amitié, me gardez-vous votre amitié. Certaines années, je le crois, n'arrive pas assez de sel. Soufflant tempête, le vent froid, s'en faut de peu que l'arbre crève. J'ai honte d'écrire pour vous dire que je ne peux écrire. Soudain devenu fou, au bout de ma ligne chavire. Trop peu de pommes aux pommiers. Me gardez-vous votre amitié, me gardez-vous votre amitié. J'ai honte d'autant plus que je crois que vous avez d'autres peines, auprès desquelles pour un peu je n'oserais dire les miennes. Si je ne vous ai pas écrit, c'est pas que l'amitié s'effrite. C'est pas qu'on retienne ses cris, mais que le temps passe trop vite. Trop peu de pommes aux pommiers. Me gardez-vous votre amitié, me gardez-vous votre amitié. C'est à vous que j'écris, voyez, mais j'aimerais tant qu'il vous plaise que j'adresse aussi ce courrier à d'autres noms que vous, Thérèse. D'autres qui m'écrivent parfois pour me donner raison de vivre. Qu'avec vous jamais ils ne croient que mon cœur cesse de les suivre. Ne valent pas cette amitié, ne valent pas cette amitié.
Regardez avec tes dents en or, pavané au cocktail, t'as du mal à mâcher. Ton regard est dur pour ces jeunes défroqués qui se barrent dans ton dos en lorgnant des chaussures. Et ton si cher accent, je sais que tu l'exagères quand tu t'extasies devant une belle fringue ou une bière avec tes sauts de roche, je royaume. Oh my god, je n'apprécie pas! Le dimanche, tu sors de la messe, garni de tes fourrures et de tes grosses fesses. Tu gonfles tes vieux seins quand tu causes à un homme. Tu suppures le fond de teint et personne ne voit rien. Le son de politique d'un date de 50 ans. Dans le fond, ce qui t'intéresse, c'est qu'on parle de ton fric. C'est sûr qu'un héritage, on a de quoi s'en vanter, surtout quand il rouille dans des tas de coffres. Que les piquilles t'entourent et glissent les mains à toi. Pour ton cul ou ta bouche, tu écartes tes bras. Tes bras s'entrechoquent pendant que tu t'en moques. Moi je n'existe plus. When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. 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 Johanna's hangup. What if it's just me? Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. 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 Make it rain, girl, make it.
Make it. ci biro yi jigen yeengi ci toli lu goddi def ben ñun fuk lañ ci doli haru ñu lenn ci kenn tax ñu doni leader ñoy yar ñoy yor ñoy yirté njabot ci biir kër jambar ni touré mimi Moussa Yu Sar ami stilini adama pari ak tagalu ko musi am jom di tegi jego jukkel gi ñoko jello servir le Sénégal ni marem fay waral sa choono bolé seure Toubay tak togaay ci kër gi dak ñafé suñu life job bolé kak ay nat xarañ ci bép fan xam xam gu kendul nat suñu kaddu dis gan tax togatuñ ni fat ci skooli ci job bi jigen ye tok ci trone yalla ñu jëk ceural tax tay ñu gaddu ndamli fam leader ñoy cité aduna bi deug tanki jitu tax ñepp top rang bi
maison bureau nous on gère école enfant même les pères dirige le monde je suis une dame de fer j'suis une femme et j'en suis fière maison bureau nous on gère école enfant même les pères dirige le monde je suis une dame de fer j'suis une femme et j'en suis fière
maison bureau nous on gère école, enfants, même les pères. Je dirige le monde, je suis une dame de fer. Je suis une femme et j'en suis fière. Maison, bureau, nous on gère. École, enfants, même les pères. Je dirige le monde, je suis une dame de fer. Je suis une femme et j'en suis fière.
Yeah. Tapis rouge, honneur aux dames fières. Si l'édifice prend forme, c'est parce qu'elles ont mis la première pierre. On est des femmes leaders, mental d'acier.